Laurence Boudard, bonjour. Donc, très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions Casterman de votre ouvrage, Martine, l'éternelle jeunesse d'une icône. Un ouvrage de référence, une mine d'or pour ceux qui veulent tout savoir sur ce personnage de BD qui fête cette année ses 70 ans. Alors, Martine, on l'oublie sans doute un peu beaucoup, c'est qu'elle est belge, même si elle est régulièrement associée à la France. Et comme vous dites, il y a une sorte de gommage dans la réalité belge.
Oui, assez vite. Enfin, Martine, elle naît, elle apparaît en 1954, et très vite, les éditions Casterman souhaitent véritablement que ce nouveau produit, ce nouveau personnage de l'édition pour la jeunesse, sorte du cercle limité de la Belgique et soit lu dans différents pays, notamment la France, mais aussi très rapidement aussi à l'étranger avec des traductions, etc. Et donc, il y a vraiment la volonté de faire en sorte que ce personnage ne puisse pas être limité à une référence géographique et culturelle déterminée. Et qu'au contraire, il puisse parler à un public le plus large possible, raison pour laquelle, eh bien, on demande aux auteurs, que ce soit Marcel Marlier ou Gilbert Delahaye, de ne pas
trop typer
et de ne pas introduire des éléments qui puissent limiter la portée géographique et culturelle du personnage et des histoires.
Même si on reconnaît certains monuments, dirons-nous, c'est vrai qu'ils sont tout de suite un peu noyés dans
l'ensemble. Ils sont un peu floutés. Les contours reconnaissables sont floutés. On n'arrive pas complètement à identifier le beffroi, la cathédrale, enfin ce genre de référence visuelle que l'on connaît bien en Belgique.
Mais à l'inverse, par contre, on a la SNCF qui passe et là, par contre...
Effectivement, là, ça marche. Bon, effectivement, de toute façon, en France, il y a toujours... et puis on est quand même toujours un petit peu rattrapés hein, par nos voisins français, quoi qu'il arrive en termes d'édition.
Alors, dans votre ouvrage, je vous expliquais très bien qu'il y a trois éléments en fait qui peuvent expliquer le succès instantané de cet album. Il y a les enfants du baby boom qui furent donc un public important. Il y a la femme comme consommatrice qui commence à exister. Et alors il y a cette fameuse loi française de 49 qui va aussi changer pas mal la donne, non ?
Oui, ça va permettre donc cette loi de 49 qui en fait a été votée au départ. Donc c'est une loi française, mais qui va toucher le secteur de l'édition plus largement. Pas uniquement français, mais également belge, et qui vise en fait à restreindre l'importation de personnages venus essentiellement des États-Unis, des comiques américains, qui sont à qui on reproche d'être trop violents, trop agressifs.
Amoureux.
Oui, amoureux, effectivement. Donc il y a vraiment la question de la moralité qui est mise en avant dans cette loi. Et donc c'est une loi qui à la fois a une visée morale, mais qui a aussi des conséquences d'un point de vue commercial, puisque certaines productions américaines ne vont pas pouvoir passer justement le crible de cette loi et on va être refoulé, et ça va donc ouvrir le champ pour la production, pour une nouvelle production tant en Belgique qu'en France. Et cette production pour la jeunesse, c'est effectivement de ce contexte-là, plus effectivement les enfants du baby-boom, une population lectrice aussi plus importante, puisque les enfants allaient certes déjà à l'école avant-guerre, mais ils y vont encore plus après-guerre. Et donc, en 54, quand le premier album de Martine paraît, il y a un public, un lectorat qui est prêt à accueillir une nouvelle héroïne, et en particulier une fille. Parce que là aussi, il y avait une espèce de vide dans le paysage de la production pour l'enfance. Il n'y avait pas d'héroïne. Et donc, c'est comme ça que
Casterman... extra... spéciaux, enfin je veux dire qu'on est loin des Marvel et autres.
Absolument, oui, il n'y a aucune, là on se retrouve, il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas de monde féerique non plus, parce qu'on pourrait dire tiens une fille, du coup on va faire des fées ou des choses comme ça, ou je ne sais pas, des imaginaires plus proches des contes de fées ou de ce que Walt Disney peut faire à peu près à la même époque. Ici il y a vraiment une volonté d'inscrire un personnage à la fois féminin, mais aussi de l'inscrire donc dans un univers du quotidien facilement et immédiatement reconnaissable par le lectorat de l'époque.
Alors derrière cette jeune fille, il y a quand même deux auteurs, deux artistes discrets, même un peu trop discret. Donc c'est Marcel Marlier et Gilbert Delahaye. Parlez-nous un petit peu de l'épisode de Michael Jackson.
Donc ça arrive bien après, hein, bien après. Le personnage de Martine est déjà bien connu. Michael Jackson, apparemment.
Je parlais de la discrétion, bien sûr.
Oui, oui. Michael Jackson, apparemment, est tombé complètement admiratif. Du dessin de Marcel Marlier, du personnage de Martine, mais surtout du dessin de Marcel Marlier, en observant un puzzle Ravensburger, puisqu'il y a eu plusieurs déclinaisons de puzzles dans différentes marques, dont celle-là. Et donc, il est tombé complètement admiratif du dessin de Marcel Marlier, à tel point qu'il a absolument voulu rencontrer Marcel Marlier, ce qui s'est produit. Donc, ils se sont rencontrés, Marcel Marlier et son épouse, ont rencontré à Paris, lors d'un de ses passages en Europe, Michael Jackson, qui visiblement était complètement surexcité à l'idée de toucher même physiquement l'auteur de ses dessins qu'il trouvait merveilleux. Et il a voulu en acheter, il a voulu que Marcel Marlier, semble-t-il, lui illustre une histoire que lui-même aurait écrite. Mais pour cela, il aurait fallu qu'il se rende aux États-Unis et ça, Marcel Marlier n'a pas voulu. Oui, mais c'est complètement dingue. En fait, c'est une sorte de télescopage de deux univers, d'une part ce monde de Marcel Marlier qui était quand même resté très très simple, très proche de sa famille, de son univers direct, géographique, sans rentrer certainement très 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 éloigné du star system et de tout ce que l'image de Michael Jackson et de tout ce monde du spectacle et du spectacle à l'américaine pouvait dégager.
Alors Gilbert Delahaye va décéder en 1997, et assez surprenant, c'est le fils de Marcel, Jean-Louis, qui va reprendre finalement le flambeau, avec quand même une évolution, et notamment dans les thèmes abordés. Non ?
Oui, il y aura une évolution dans les thèmes abordés. Alors il va davantage encore, même si le mouvement avait déjà été amorcé, il va encore davantage accentuer la dimension de la relation avec la nature, qui était vraiment très importante et qui l'est toujours d'ailleurs chez les Marliers. Donc il y a cette dimension-là. Et puis il va rajouter un petit peu plus de tension, je dirais, de tension narrative, comme on dit techniquement dans les histoires de Martine, c'est-à-dire qu'il va se passer des choses qui vont provoquer une espèce de d'inconnu, de suspense, de moments un petit peu de complexité aussi dans les histoires et de problèmes,
voire
de peur.
Comme vous le mentionnez au départ, c'était un univers serein, exempt de danger, de menaces, de misère et de malheur, et qui rassurait enfants et parents. Et puis finalement, ça devient quand même un peu plus complexe.
Ça devient un petit peu plus complexe. Oui, enfin, je pense que lui a voulu imprimer un peu son style aussi dans les histoires. Et donc, alors c'est pas non plus que Martine d'un coup devient un personnage à qui il arrive plein de malheurs et où la vie devient très complexe, mais il n'empêche qu'il y a des petites mésaventures et des petits problèmes à résoudre qui surgissent dans les histoires de Martine, ce qui n'existait pas certainement pas dans les tout premiers albums. Oui, ça c'est sûr.
Alors parlons des chiffres qui donnent le tournis. Ça nous fait 120 millions de vendus en langue française, 50 millions en langue étrangère, plus de 30 langues dans les traductions, 60 albums bien sûr, de 54 à 2010, 150 000 exemplaires par titre et 400 000 par an. C'est dingue.
C'est dingue, oui, c'est dingue. Je dois reconnaître que ce sont des chiffres, comme vous le dites, qui donnent le tournis qui sont assez exceptionnels. Je connais pas j'ai pas à ma disposition tous les chiffres de l'édition pour la jeunesse en langue française en particulier, mais ce sont des chiffres assez hallucinants en réalité.
Et qui perdure.
Et c'est surtout ces 60 ans d'existence aussi qui sont 60 albums. Faut le faire quand même, tenir sur 60 albums. Et puis c'est parce qu'il est décédé, parce qu'il est tombé malade et il est décédé. Marcel Marlier aurait pu encore continuer sans doute un certain nombre d'années à produire des albums de Martine. Donc il y a une permanence, une manière de traverser les époques et les modes qui se matérialise aussi dans tous ces chiffres que vous venez d'énoncer, mais qui est assez unique dans l'édition en français.
Et une adaptation, parce que finalement, ces ouvrages sont adaptés à une réalité et à une modernité aussi. C'est ça qui est quand même assez incroyable.
Oui, ce sont à la fois des albums qui sont le reflet d'une époque, de chacune des époques par lesquelles, au cours desquelles ils ont été produits. Et en même temps, ils ont cette qualité qui, je crois, explique aussi leur pérennité, qui est que chacune des histoires met en avant des valeurs qui sont intrinsèquement liées à l'enfance. Et ce qu'on rapporte à l'enfance a un caractère universel, finalement, et éternel. C'est la curiosité, c'est l'enthousiasme, c'est l'envie de grandir dans un monde rassurant, c'est l'insouciance aussi, c'est la bienveillance que l'on dégage et dont on aime être entouré. Donc je pense que ce sont toutes ces valeurs de bonheur pur, de bonheur simple aussi, que l'on rattache à l'enfance. Je crois, toute époque et tout espace géographique et toute culture confondue. Et ça, Martine l'incarne véritablement.
Et alors, ce qui est assez surprenant et qu'on découvre dans votre ouvrage, c'est cette adaptation, finalement, les prénoms qui changent au fil des rééditions, il y a des thèmes qui sont un peu modernisés, les façons de le présenter. Un exemple, c'est Martine Ozo. C'est vrai que les animaux, comme dans les cirques, bon, on ne les voit plus de la même façon non plus.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'était une volonté de Casterman, il y a une dizaine d'années, de réécrire l'ensemble des 60 albums de la série, de maintenir, bien entendu, intact les dessins, y compris le séquençage. Hein. L'ordre n'est pas changé par rapport aux albums précédents, mais de proposer effectivement une forme d'actualisation, de mise à jour des textes d'une part, pour répondre à un lectorat qui s'était rajeuni, c'est ce que l'éditeur avait constaté d'une part, et d'autre part, effectivement, de parler une langue, et non pas au sens premier, mais au sens second, une langue que le lectorat d'aujourd'hui pouvait comprendre. Et effectivement, ce rapport à l'animal, que l'on voit aussi évoluer dans les albums eux-mêmes. Je veux dire, entre Martine Ozo et Martine protège la nature, il y a à peu près 50 ans, d'écart, et on a un rapport au monde animalier qui est très différent dans les histoires, dans les premières éditions de Martine elle-même. Et puis, dans ces phases de réécriture, ben évidemment, on tient compte aussi de ces évolutions de la société et on tient un discours qui est plus en phase, finalement, avec les évolutions de l'époque et de l'époque contemporaine en particulier.
Parlait de lectorat, et on en avait discuté précédemment, c'est le public féminin et, avec en italique, et masculin quand même. Ça, c'est quand même à préciser. Là.
Oui, c'est à préciser parce que même si effectivement Martine occupe une place, Martine, c'est l'héroïne féminine par excellence, c'est d'ailleurs une des rares, hein, pour ne pas dire une des seules. Elle porte, chaque album porte son nom, c'est elle qui mène les aventures, c'est elle qui prend l'initiative, c'est elle qui agit, c'est elle qui décide, c'est elle qui est vraiment la protagoniste de ces histoires. Elle n'est pas elle est vraiment un sujet, elle n'est pas un objet. C'est aussi l'idée de l'enfance et des activités liées à l'enfance, le jeu, l'amusement, la curiosité, l'amitié, la camaraderie, les découvertes, les voyages, etc., qui sont racontées à travers l'histoire de Martine. Et donc, ces histoires peuvent à la fois être lues par des petites filles, mais aussi par des petits garçons qui peuvent aussi voir refléter finalement quelque chose de l'enfance qui soit leur rappelle leur propre enfance, soit leur permettre de rêver à une enfance à laquelle ils pourraient aspirer, soit aussi bien trouver simplement partager la même curiosité que Martine pour les choses qui l'entourent.
L'intention didactique des ouvrages, donc apprendre à lire, à nager, à jouer de la musique, à faire du vélo, etc. C'est une intention qui vient des auteurs ou c'est l'éditeur qui l'a mise en avant?
Non, là je pense que ça vient des auteurs. Je pense que ça vient fondamentalement des auteurs. Oui, c'est aussi l'époque. Dans les premiers albums, les albums des années 50 et 60, ce qu'on constate, c'est que Martine apprivoise l'univers de l'adulte, en fait. C'est-à-dire qu'elle découvre, avec son regard d'enfant, le monde de l'adulte. Elle prend l'avion. L'avion n'est pas une activité spécialement dédiée aux enfants. Elle prend le bateau, pareil. Elle fait les courses. Ben, ça, c'est clairement l'univers de l'adulte dont qu'elle s'approprie. Voilà. Après, on est davantage, à partir des années 70 et 80, elle va davantage réaliser... Donc là, je veux dire, la dimension didactique d'apprentissage, elle est plus manifeste peut-être dans les premiers albums où elle s'approprie l'univers de l'adulte. Après, elle va apprendre, mais elle va apprendre en s'amusant. Et donc là, on va se retrouver, quand elle apprend à nager, quand elle apprend à faire du vélo, quand elle apprend à faire la cuisine, elle le fait avec un regard d'enfant. Donc il y a une volonté, effectivement, d'apprentissage, mais je crois que ça répond aussi à la curiosité insatiable des enfants. Les enfants, ils veulent tout savoir, ils veulent tout découvrir, ils ont envie de tout tester. Et Martine, c'est ça qu'elle fait dans ses histoires.
Alors, vous aviez déjà écrit un ouvrage, Martine, une aventurière du quotidien, dans la collection La Fabrique des héros. Ouvrage par lequel vous étiez d'ailleurs finaliste au prix Trinal de l'essai en langue française en 2023 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous n'aviez pas tout dit.
Non, je n'avais... Alors, deux choses. Je n'avais pas tout dit, d'une part, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand j'avais écrit ce livre-là, on était en plein confinement et il y avait des informations auxquelles je n'avais pas eu accès et auxquelles j'ai pu accéder pour la préparation de ce livre. Notamment les archives Casterman, qui sont aux archives de l'État à Tournai, que j'ai pu consulter, et qui m'ont apporté un certain nombre d'informations. Et puis, je n'avais pas pu rencontrer non plus la famille Marlier, qui a pu, pour ce livre-ci, me fournir toute une série d'informations que je présente notamment sous forme de petites anecdotes dans des petits encarts dans le livre, oui, comme des un peu les coulisses, hein, l'envers du décor. Et ça, c'est toute une série d'informations que je n'avais pas eues. Et puis, le point de vue du livre n'était pas le même. C'est-à-dire qu'ici, on est vraiment dans un album, donc avec des illustrations. Et je trouve que les illustrations appuient justement le propos. Elles l'illustrent, comme le nom l'indique, mais elles l'appuient aussi, elles le renforcent d'une certaine manière. Tandis que dans l'autre format, on était vraiment dans un format plus classique de l'essai, plus cadré en termes de volume également. Et donc, c'était une autre approche. Mais c'est vrai qu'il y a, forcément, je ne peux pas réinventer la roue à chaque fois, il y a des points communs entre les deux ouvrages.
Alors, vous êtes directrice aux archives et musées de la littérature. Est-ce qu'à titre, vous avez eu des accès privilégiés et vous avez pu avoir découvrir des pépites insoupçonnées?
Alors, je dois dire, je ne sais pas si j'ai eu... Non, mais je vais être très honnête. Hein. Je ne sais pas si j'ai eu un accès privilégié. Je parlais il y a un instant des archives Casterman à Tournai. Donc, il se trouve que normalement, ces archives ne sont pas accessibles au public pour la simple et bonne raison que leur dépouillement, comme on dit techniquement, n'est pas terminé. Donc il y a encore toute une série d'archives qui sont brutes, quoi, hein, qui sont telles qu'elles ont été déposées à l'époque. Donc normalement le public n'y a pas accès. Et c'est vrai que là j'ai fait valoir le fait que bah non seulement je préparais un bouquin pour Casterman, mais qu'en plus j'avais l'habitude de manipuler des archives, y compris des archives non traitées, et que je garantissais évidemment de faire très attention à ne pas entremêler les papiers et de tout mélanger. Donc peut-être que ça m'a aidé. En tout cas, je crois que ce qui m'a sans doute servi, non, peut-être sans doute pas pour avoir des passe-droits ou ce genre de choses, mais pour aborder la matière, oui. J'ai une certaine habitude d'aborder des matières littéraires, pas forcément la littérature pour la jeunesse, mais d'autres sujets.
Et donc j'ai utilisé à certains moments, même s'ils sont un peu cachés, j'ai utilisé certaines clés d'analyse littéraire, que ce soit des méthodologies, enfin de la méthode sociologique, ou bien même de la narratologie, que j'ai utilisé à certains moments, même si le lecteur, je rassure le lecteur non averti à ce genre d'approche, il n'y verra que du feu, mais moi je sais que je les ai utilisés, oui, ou de la sémiotique, oui.
Laurence, un grand merci. Donc on rappelle votre ouvrage, Martine, l'éternelle jeunesse d'une icône, qui sort le 20 mars.
Exactement.
En même temps qu'un nouveau Martine, Martine à Paris, donc qui est le 64e en plus.
Exactement, oui.
Et alors, si on veut vous rencontrer à la Foire du Livre, vous serez le jeudi 4 et le dimanche 7 avril à Tour et Taxis. Merci à vous.
Merci beaucoup.